Attends, parce qu'il faut pour l'enregistrement.
Je voudrais juste... Ah oui, d'accord, oui. Oui. Je voudrais juste profiter du fait qu'on soit ici pour savoir est-ce que si des théâtres commençaient à se déclarer zone de la GCS, aurait aussi sa pertinence, parce que nous sommes dans des... Nous sommes dans... enfin, je dis ça comme ça. Je pense que les territoires, les écoles, parce qu'il commence à y avoir même des rues. Voilà.
Le candidat a évoqué le poids juridique qu'aurait l'effet boule de neige. Un effet boule de neige grosse, au fur et à mesure que se déclarerait de façon locale, régionale, à tous les niveaux finalement, des zones non à GCS. À la limite, chacun de nous peut dire je suis à moi seul. Un véritable pôle de combustion non à GCS. Donc, à partir de quel moment, parce que Jamila nous avait parlé à Vancouver, enfin, au Canada, hein, d'un réseau qui s'était déjà constitué avec beaucoup de force, à travers les ONG, je crois. Et pourriez-vous nous en dire un petit peu plus pour qu'on ait l'idée, par exemple, de quelque chose qui existe déjà et qui a son poids? Est-ce que ça aura un poids juridique bientôt, cette résistance canadienne de Vancouver?
Ça, je peux pas préjuger de l'avenir. Hein. Moi, je suis toujours très prudent pour faire des spéculations. J'aime pas. C'est vrai qu'au Canada, ils ont été un peu précurseurs dans la mobilisation contre la GCS. Il faut savoir qu'il y a un réseau qui s'appelle Council of Canadians, qui rassemble environ 800 associations diverses, ONG, groupements de citoyens, et qui a eu pour effet, effectivement, que c'est la ville de Vancouver qui, la toute première dans le monde, s'est déclarée zone non à GCS. C'est le premier effet. Bon, le reste, c'est le même travail que celui que nous faisons maintenant un peu partout, un travail d'explication, un travail de pédagogie, un travail de sensibilisation, de mobilisation. Les effets juridiques, ça va dépendre dans chaque pays. Si une masse critique de territoire non AGCS est atteinte ou pas, à ce moment-là, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est de faire, pour le moment, parce que tout le monde ne communique pas l'information. Un conseil municipal de Foufny-les-Berdoux, il ne va pas nécessairement envoyer à l'un ou l'autre des réseaux, je me suis déclaré zone non AGCS. On s'est baladé dans le sud de la France il y a 3 semaines, et on a appris quand même un tout petit patelin, mais au milieu de nulle part, c'était une zone non AGCS. C'était très sympathique, mais enfin bon, personne ne le savait. Donc, ce qui va être intéressant, c'est le jour où on va sortir des listes. Je ne sais pas combien de milliers de communes il y a en France, mais si on pouvait dire, allez, 40% ou 50% ou 60% des communes de France se sont déclarées zone non AGCS, ça commence à peser lourd. C'est ça qu'il faut atteindre. Parce que, je reviens à la GCS, je ne vais pas faire du légalisme, mais c'est un accord qui vise les mesures. Donc les normes. Et les normes sont arrêtées par des entités politico-administratives. Donc c'est sympathique et la charge symbolique peut être très forte qu'un théâtre, qu'un musée, qu'un parc, qu'une réserve naturelle se déclare non AGCS. Tous ces bâtiments et tous ces lieux de vie et d'activité sont menacés. Oui, mais là, ça n'a qu'une vertu symbolique. Enfin, symbolique plus l'effet pédagogique que ça provoque parce qu'on en parle. Ça peut avoir des conséquences juridiques quand ce sont des entités administratives qui se déclarent zone AGCS. Voilà, c'est la différence.
Oui, mais alors, avec la possibilité d'un vrai conflit politique, puisque nous nous trouvons en France actuellement avec un gouvernement qui, manifestement, est favorable dans un grand nombre de ces mesures au niveau de la culture et de l'éducation, à une libéralisation, à une décentralisation qui va vers une privatisation. Donc, il va y avoir des situations conflictuelles à l'intérieur même du pays.
De toute façon, quelle que soit la géographie politique de quelque pays que ce soit, moi, si je regarde, puisqu'on est à peu près sur une période de 10 ans, 94-2004, on est pratiquement en 2004, ben, et Pascal Lamy le dit d'ailleurs, très justement, quand, dans un débat contradictoire où je lui étais opposé à Bruxelles, il disait, mais moi, mon mandat, celui que le Conseil des ministres européens m'a donné en octobre 99, qui est d'ailleurs inchangé. C'était pour Seattle, il y a eu Seattle, puis il y a eu Doha, puis il y a eu Cancun, mais c'est toujours le même. Et si je veux caricaturer, ce mandat confie à Pascal Lamy le soin d'ajouter une vingtaine de traités supplémentaires aux 60 existants à l'OMC. C'est un mandat ultra-libéral. Octobre 99, Jospin, Premier ministre, Dalema, social-démocrate, Premier ministre, Schröder, social-démocrate, Premier ministre, Blair, social-démocrate, Premier ministre. Les quatre pays les plus importants de l'Union européenne étaient présidés par une certaine gauche. Depuis, il y a ici ou là la droite. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a un manque de clarté de la part des partis politiques sur les accords de l'OMC, d'une manière générale, et en particulier sur la GCS. Ça ne nous facilite pas les tâches, parce qu'on a besoin, effectivement, de relais politiques. Et pour le moment, ceux qui ont un peu porté notre analyse et notre volonté de résister, c'est davantage des individus dans des partis que des partis comme tels. Ou alors, c'est des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qui formulent une critique globale. On a fait avec Agnès Bertrand l'an passé un séminaire à l'Assemblée nationale. On a aussi organisé au début de cette année-ci une conférence de presse. Il y avait trois personnes représentant le PS, le PC et les Verts. Mais c'était trois personnes à titre personnel. Il n'y a pas encore aujourd'hui, peut-être un peu les Verts. Et je crois que le PC est en train de se rendre compte de la gravité de la GCS. Mais il n'y a pas un parti politique qui, aujourd'hui, sur les grands dossiers de l'OMC, je vais le dire d'une manière très modérée, ferait la part des choses. Je pourrais comprendre un discours qui dirait, on nous a dit à l'été 95 que ça allait être bon pour l'expansion, pour la croissance, pour le développement. C'était très compliqué, c'était 22 500 pages, on n'avait pas le temps de les lire, on s'en est remis aux experts qui nous ont dit, allez-y voter, on l'a fait. On se rend compte qu'on a été trompé, qu'on a été abusé, corrigeons. Moi, c'est un discours qui n'est quand même pas un discours révolutionnaire, mais que je considérerais comme une étape. Mais on n'en est même pas encore là. C'est vrai, comme dans d'autres domaines, il y a des gens qui sont comme frappés d'une sorte d'infaillibilité, ne se trompent jamais. Vous avez... Il y a un petit état là à Rome où l'infaillibilité est un dogme, mais nos politiques pratiquent aussi une sorte d'infaillibilité permanente. Ils ne se sont jamais trompés, ils ne reviennent donc jamais sur ce qu'ils ont décidé. C'est un peu dommage. On n'a jamais été aussi loin aujourd'hui du parler vrai en politique. Mais pourtant, ce serait ça le discours le plus modéré que l'on pourrait attendre. Qu'ils reconnaissent, en tout cas que ceux qui ont ratifié ces textes en 95 reconnaissent qu'on les a abusés, qu'on les a trompés, que ces textes vont beaucoup, beaucoup trop loin dans la redéfinition d'une nouvelle société. On n'en est pas là. Donc il y a encore beaucoup de travail.
J'ai une question peut-être un petit peu naïve par rapport...
Il n'y a pas de question naïve.